Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage. Oubliez vos petits soucis, vos conf-calls, vos présentations PowerPoint, chaussez vos Santiago pour 2 heures d'une folle chevauchée sur la plaine du savoir. 2 heures de découvertes rieuses pour vous, d'impitoyables castagnes pour eux. Depuis la rentrée, chaque après-midi, les journalistes de la rédaction s'affrontent. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Et tout le monde étant obsédé par le classement général, forcément, l'ambiance à la cantine s'est beaucoup dégradée.
Tout va bien.
Non, tout ne va pas bien.
Je ne veux pas qu'on en parle.
Calmez-vous. Quel sujet vous aura le plus passionné? Vous votez via Twitter et la personne à ma gauche relaiera vos votes si toutefois elle est en état. Une rumeur insistante voudrait en effet que la nuit d'hier fut longue pour Eva Rock, qui aurait enfin réussi à conclure avec un plan Tinder.
Il fait non de la tête, mais il dit oui avec le...
C'est l'essentiel et juridiquement, ça vaut consentement. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ce soir ou en replay.
Plutôt en replay
d'ailleurs, car ce soir, je vous invite au théâtre Les Justes d'Albert Camus, mis en scène par notre invité. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Je vous ai surpris. Hein.
Oui, vous étiez
en train de boire votre thé, vous pensiez que j'allais dérouler mes conneries et tout à coup, ça va très vite.
Mais vous avez vu, j'ai répondu. Je suis sur le qui-vive, vous êtes
ultra réactif et vous avez une double actu, cette pièce, on va en parler, Les Justes au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 19 octobre. Et votre premier roman, Méchante blessure, publié chez Plomb. Vous avez encore de la place pour faire un peu de musique là en ce moment ou...
Il faut en trouver un peu, on essaye en tout cas.
On va parler de ce roman qui avec Eva nous a beaucoup plu, surtout surpris. Personnellement, je le dis tout de suite, je ne connaissais pas l'œuvre d'Abdelmalik et je ne connaissais surtout pas Abdelmalik l'écrivain. Eh ben, je peux vous dire que ça envoie du pâté, comme on disait dans ma jeunesse.
C'est classe, ça.
On va parler de cette double actualité, mais d'abord Abdelmalik, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. À ma gauche, un journaliste humble, mais qui connaît sa valeur. Hier, au détour d'un couloir, il m'a dit « Mathieu, si tu pouvais arrêter de me présenter comme un baltringue, ça m'arrangerait. Essaye d'être un peu emphatique quand tu m'annonces. » Eh bien, étant très à l'écoute de mes journalistes, j'ai demandé à Pierre Arditi de l'annoncer.
Jean-Philippe Ballas.
Ça vous va, Ballas? Vous voulez aussi un tapis rouge, peut-être?
C'est parfait.
Ça vous va? Jean-Philippe, vous êtes notre référent international. Quand on a démarré cette émission, je vous avais dit « Le moins j'entends parler de Donald Trump, le mieux je me porte. » Mais bon, là, Donald ayant franchi un nouveau Rubicon rempli de crocodiles, vous allez quand même nous en parler un peu.
Ah, c'est un vrai film d'horreur. Ça se passe à la frontière avec le Mexique. Comme souvent avec Donald Trump, vous verrez.
À ses côtés, Abdelmalik, lui, quand on a démarré cette émission, je lui avais dit « Ok, je te prends, mais c'est pas juste du fun, faudra un peu bosser. » Résultat...
On va parler d'acteurs un petit peu particuliers, les animaux sur les tournages, puisqu'il y a beaucoup d'oies sauvages sur le film de Nicolas Vanier. Voilà. Comment tout ça est encadré, comment ça fonctionne?
Vous avez des extraits sonores?
Non.
J'aurais dû lui faire signer un papier où il s'engage à bosser un peu. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Pas de son aujourd'hui?
Non plus.
Bien sûr que non. Pourquoi changer une équipe qui gagne?
Il y a notre voix.
Vous êtes notre expert cinéma et bande dessinée. C'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui. Notre invité Abdelmalik est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous nous parlez aujourd'hui de ces albums qui évoquent les agressions sexuelles.
Oui, des albums de bande dessinée qui parlent et qui donnent la parole effectivement aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Et c'est très bien fait.
C'est très bien fait. Vous avez bossé pour une fois.
Non, c'est très bien fait. C'est très bien fait la bande dessinée, pas c'est très bien fait la chronique pour l'instant.
On n'en sait pas. Voilà pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc le géant du hip-hop français Abdelmalik qui nous accompagne cet après-midi. Alors on va parler bien sûr de la musique, mais ce n'est pas le rappeur qui est à la une de l'actu culturelle, c'est l'écrivain et le metteur en scène. On commence par lequel des deux? L'écrivain. Ça vous va?
Ça me va, très bien.
Votre roman paru chez Plomb s'intitule « Méchante blessure ». C'est l'histoire d'un rappeur star, Camille, l'anagramme de Malik, on l'aura noté. C'est un Français noir musulman d'origine congolaise qui prône une société plus solidaire. Alors, d'accord, c'est une fiction, mais il y a quand même beaucoup de vous dans ce personnage.
Oh ben oui, mais en même temps, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Flaubert et Madame Bovary. L'idée, c'est que c'est toujours soi, en fait. Et c'est vrai qu'au départ... Il y a quelques années, « Trois jours chez ma mère » de François Heurgens m'a tellement marqué, en fait, parce qu'il avait, justement, il y avait son avatar qui s'appelait François Heurgraff. Et je m'étais dit, ah, ça serait mortel d'écrire un bouquin où c'est moi, mais pas vraiment moi. Et j'ai trouvé ça super. Donc, en fait, l'idée a fait son chemin et voilà, Méchante blessure, d'une certaine manière.
C'est un roman qui parle beaucoup d'identité. C'est quoi être français pour vous, aujourd'hui, Abdelmalik? On sent que c'est une question que vous avez tournée et retourner dans votre tête.
Ouais, pour moi, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que, évidemment, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni un sexe. C'est le fait d'adhérer à des valeurs, à des principes. C'est un rapport au monde, finalement.
Sur l'écriture, vous dites « Les auteurs de l'ancienne génération pensaient qu'un livre pouvait changer le monde. Je fais partie d'une génération d'écrivains qui veut sauver le monde. » Par quoi on doit commencer pour sauver le monde, Abdelmalik?
Ben, j'ai envie de dire par des choses assez simples et qui paraissent tellement évidentes qu'on l'oublie finalement. Juste essayer de parler d'empathie, par exemple. Et j'ai même envie de dire un mot qui peut-être va vous choquer ici, mais peut-être parler de tendresse.
Alors ça ne nous choque pas, vous savez, on peut être assez tendre, surtout en antenne, pas forcément à l'antenne.
Bon, alors tout est bien, je suis dans le bon endroit, monsieur, il faut être, c'est très bien. Non, mais je pense que voilà, ce sont des choses importantes, parce que finalement, moi, ma démarche, c'est de réfléchir comment faire peuple. Et ça, c'est un cheminement, c'est un travail.
Et il y a des ponts, on a l'impression, dans tous vos projets. Là, on parle du livre, mais il y a aussi la pièce de théâtre que vous mettez en scène au Théâtre du Châtelet. Camille, le personnage de votre roman, admire Camus, comme vous, et vous mettez en scène Camus. Vous dites, sans Camus, vous seriez mort, en prison ou fou. À ce point-là,
moi, je suis de cette génération. Notre problématique première, c'était la drogue dure et ses conséquences. Et beaucoup de mes proches, de mes amis ont été victimes de ça. De manière différente. Et c'est vrai que très tôt, j'ai été confronté à la mort. Et très vite, en fait, mes amis sont devenus les écrivains. Que ce soit Camus, que ce soit Sénèque, que ce soit Épictète, soit Césaire, que ce soit tous ces gens-là, je ne les vivais pas comme des êtres de papier, en fait. Je les vivais vraiment comme des êtres de chair et de sang.
Et plus qu'un artiste, j'ai l'impression que vous vous sentez du coup investi d'une mission, de passer le relais, justement, de faire découvrir ces écrivains aux jeunes, pour leur éviter de prendre le mauvais chemin.
Ouais, je suis en mission, mais comme vous, comme chacun, comme nous tous.
Chacun sa mission.
Non, j'ai envie de dire...
On est plutôt dans le divertissement léger.
Ouais, et puis on en a besoin, de tout, j'ai envie de dire. Non, ce qui est important, c'est que vous savez, moi j'ai un mantra de vie à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'être, c'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité. L'idée, c'est de pouvoir prendre de grandes autrices, de grands auteurs, de grands textes et les mettre en lien avec aujourd'hui, en résonance avec aujourd'hui, avec la culture hip-hop, avec les cultures urbaines, avec la jeunesse, avec ce que moi j'appelle le peuple de la périphérie, c'est-à-dire les gens des cités, les gens des campagnes, abandonnés, les femmes, etc. Tout ça. Voilà, mettre tout ça en lien et en mouvement pour être juste du 21e siècle.
Et c'est vraiment exactement ce que vous faites au Théâtre du Châtelet en ce moment dans la mise en scène innovante des Justes. Double actualité, on le rappelle aussi, puisque votre roman Méchante blessure est disponible chez Plon. Abdelmalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipée sauvage, direction les États-Unis et plus précisément le bureau ovale de la Maison Blanche avec ce personnage peroxydé qu'aurait adoré Audiard.
Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Dans la série, en voilà une bonne idée pour inciter les Mexicains à rester chez eux. Nouvelle trouvaille exceptionnelle de Donald Trump, construire sur la frontière un fossé rempli de crocodiles et de serpents.
Pas con, non ?
Comme vous dites, Eva. Même ça, diablement malin, ouais. Jean-Philippe Ballas nous expliquera comment ça se fait que personne n'y ait songé avant. C'est pourtant le bon sens.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Assouplir ses zygomatiques sans pour autant éteindre totalement son cerveau, c'est désormais chose possible entre 16h et 18h. Ça s'appelle l'équipée sauvage, ça se passe sur Europe 1. 2 heures d'une compétition rieuse, certes, mais acharnée entre les meilleurs journalistes de la rédaction. Sous l'œil d'un invité arbitre dont la voix comptera triple en fin d'émission, aujourd'hui c'est le rappeur, écrivain, metteur en scène Abdelmalik qui nous accompagne. Ensemble, on continue de parler de sa double actualité, une adaptation des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris, et son premier roman, Méchante blessure, paru chez Plon. Mais l'heure est venue d'écouter notre premier journaliste en compétition. Abdelmalik, je vous présente Jean-Philippe Ballas, journaliste en semaine, gigolo pour dames le week-end à la coupole.
Bonjour Mireille Mathieu.
Bonjour Jean-Philippe.
Vous nous aviez caché cette double vie, Jean-Philippe, nos hommages à Mireille, du coup.
Elle est charmante, Mireille Mathieu. Et je l'embrasse encore une fois.
Comme quoi on sait être moderne, hein, d'Abdelmalik à Mireille Mathieu. Mais votre cœur de métier, Jean-Philippe, reste le journalisme. Et cet après-midi, vous nous parlez de l'idole d'Abdelmalik, on peut le dire, celui qui l'a inspiré presque autant que Camus, Donald Trump.
Alors vous savez que l'une des obsessions de Donald Trump, l'une de ses obsessions, c'est la frontière avec le Mexique, ce mur qu'il faut absolument fermer, boucler par tous les moyens, y compris les plus grotesques. Et là, c'est le New York Times, donc journal plutôt sérieux, qui nous raconte les réunions à la Maison Blanche et cette idée, sortie en privé par le président, creuser des douves, de grands fossés remplis d'eau le long de cette frontière et lâcher dans ces douves des serpents, des alligators, le tout avec des pics et des clôtures électrifiées. Donald Trump pourrait même demander un devis à ses conseillers. Alors on a presque l'impression d'être dans un épisode un peu d'Harry Potter avec Donald Voldemort et ses serpents, ses alligators. C'est ce que nous dit d'ailleurs un humoriste aux États-Unis qui s'empresse d'ajouter quand même que tout cela n'est pas drôle du tout. Quand même, c'est assez risible. D'autant que la presse américaine s'est souvenue d'un vieux discours du prédécesseur de Trump à la Maison Blanche, un certain Barack Obama. C'était en 2011. Il parlait de cette frontière. Écoutez, à l'époque, il s'en prend à ses adversaires républicains.
Ils ont déjà demandé qu'on triple les patrouilles à la frontière. Bientôt, ils vont vouloir les quadrupler. Ou ils vont demander une clôture plus haute. Ou des douves. Avec des alligators dans les douves.
Voilà, vous entendez les rires, ça c'était en 2011 et c'était donc une blague. Alors depuis, Donald Trump a brandi, vous savez, son petit panneau fake news, il jure qu'il n'en a jamais été question. De son côté, le New York Times maintient son info. Alors on en sourit, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on parle de Donald Trump parce qu'il est, rappelons-le, le président des États-Unis. Et plus vous le ridiculisez, bah, plus ses partisans font bloc toujours derrière lui. On se donnera rendez-vous aux prochaines élections.
Abdelmalik, passer de Barack Obama à Donald Trump, pour un artiste engagé comme vous qui suivez les débats politiques, ça a dû être quand même un sacré choc, non ?
C'est un choc, mais en même temps, ça fait partie des paradoxes de leur culture, en fait. Moi, pour moi, le danger, c'est que ça devienne source d'inspiration à ce niveau-là également. En fait, c'est ça le danger. Et c'est pour ça que mon idée à moi, dans mon humble position que j'ai en tant qu'artiste, c'est comment cultiver notre singularité propre. Celle, justement, magnifier l'intelligence, magnifier la nuance, enfin, toutes ces choses-là, pour que finalement émanent de là toujours des femmes et des hommes responsables et sérieux. Parce que tout ça, je veux dire, c'est incroyable. Et encore une fois, je sais qu'on est en train de devenir un peu, d'une manière ou d'une autre, tous américains. Et ben c'est important de proposer une alternative, en tout cas une singularité qui soit propre à nous autres ici.
Une adaptation des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet, un roman, Méchante blessure chez Plon, la rentrée est chargée pour lui. Abdelmalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, il n'a jamais compris le succès du film Very Bad Trip. Bon, c'est une soirée sympa entre potes, rien de plus, avait-il commenté à l'époque. Il faut dire qu'avec ce fêtard invétéré, les fins de soirée tournent parfois au grand n'importe quoi.
Bah, on s'est dit, on va prendre des chevaux, on va lui faire tomber d'une falaise.
Je tiens d'ailleurs son 06 à disposition de la Fondation Bardot. Mathieu Charrier arrive et pour une fois, il va essayer de se tenir avec un sujet fort et d'importance. Comment évoquer le problème des agressions sexuelles en BD ? Ce sera juste après Majoli, Abdelmalik sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour booster votre culture G tout en vous amusant à départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître un invité vedette. Comment ? Eh bien grâce à la pertinence de mes questions bien sûr, toujours ciselées et surtout toujours parfaitement documentées, comme hier face à Vincent Lacoste, l'étoile montante du cinéma français.
Les séries, vous avez dit dans un article que vous aimeriez bien tourner dans une série, on vous a pas encore proposé ça ?
J'ai jamais dit ça, non ? Si peut-être, je sais pas. Pas spécialement en plus, si j'aimerais bien tourner dans une série, mais pas spécialement d'ailleurs.
Une interview palpitante à retrouver sur europe1.fr. Aujourd'hui, c'est le...
Il savait pas trop en fait.
Il savait pas trop non plus.
Et puis Vincent Lacoste, l'étoile montante du cinéma, elle est montée depuis longtemps.
Oui, je sais. Mais derrière, je m'étais rectifié hier, j'avais dit l'étoile tout court, j'avais dit, c'est vrai. Oui, bah si c'était la seule connerie que j'avais dit hier, ça me semble. Aujourd'hui, c'est le rappeur, écrivain, metteur en scène Abdelmalik qui nous accompagne. Je raye d'emblée la question sur les séries pour aller directement sur le livre. Ce premier roman, Méchante blessure, l'histoire de Camille, rappeur star en France, marié à Rita, une chanteuse. Il part à New York pour se ressourcer, il y rencontre un autre rappeur, Rufus, ils sont victimes d'une fusillade. Camille est français, noir, musulman d'origine congolaise, il prône une société qu'il espère plus solidaire, plus fraternelle. On évoquait la question de l'identité qui est au cœur de ce roman. Vous présentez aussi ce livre comme un manifeste politique. Qu'est-ce que ça signifie, un manifeste politique ?
Ben, ça signifie que nous autres artistes, à chaque fois qu'on s'exprime, d'une manière ou d'une autre, on dit oui, on est des rêveurs, des doux rêveurs, etc. Et je pense que la littérature en soi, un roman, c'est un projet politique, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on y propose des solutions. Et moi, j'ai voulu faire ça. Évidemment, on parle d'un individu. Évidemment, c'est des réflexions individuelles. Mais je pense que ce qui est vrai pour un être est vrai pour un collectif d'êtres. Et l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que de parler de toutes ces thématiques aujourd'hui qui font débat et de proposer des choses, de proposer des solutions, en tout cas des amorces de solutions. Donc voilà, en ce sens-là, c'était un livre manifeste.
Vous parliez de Sauver le Monde. Pour Sauver le Monde, on a le sentiment que vous misez plus sur les artistes justement que sur les politiques.
Mais moi, je vais vous dire franchement, je crois de moins en moins aux politiques.
Mais il faut bien que la société s'organise autour d'une politique,
ben, vous savez,
quels que soient les hommes politiques.
Non, bien sûr, évidemment. Mais pour moi, quelqu'un comme par exemple le général de Gaulle, c'était un artiste. C'est-à-dire, artiste est un état d'esprit, c'est une manière d'appréhender le monde, cette idée de chercher l'harmonie, cette idée de mettre en lien, cette idée d'incarner un mythe, cette idée d'inventer quelque chose pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et c'est ça, en fait. Et ça, pour moi, c'est une démarche qui est purement artistique, puisque un artiste est un miroir d'humanité.
Vous aimeriez que les hommes politiques soient débarrassés de leurs réflexes politiciens et qu'ils portent leur cause, enfin, qu'ils aient une idée, qu'ils suivent une idée force. C'est ça que vous dites ?
Ouais, que ce soit des êtres humains, en fait. Qu'on puisse mettre...
c'est
ce que j'ai envie de
dire. Parfait.
Ça veut dire qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui y trouve grâce à vos yeux ?
Vous voulez dire des politiques ?
Oui.
Actuels ?
Ben, je les connais pas tous, forcément, fatalement. Sûr, mais en tout cas, tous sont dans cette démarche qu'on connaît aujourd'hui, cette démarche de politique politicienne un peu qui... où chacun réfléchit à sa place, d'une certaine manière. Quand je dis à sa place, c'est-à-dire être réélu juste pour être réélu et rester dans une position, plutôt garder une sorte de statu quo et pas nécessairement de faire bouger les choses. Après, peut-être il y en a qui veulent faire bouger les choses, mais...
Ça veut dire qu'on ne vous verra jamais vous présenter dans une quelconque élection ?
Ouais, moi, il y a une sorte de ligne rouge, en fait.
Ouais.
C'est, moi, je suis un artiste. Et... d'accord pour inspirer d'autres, etc. Mais ma démarche, elle, c'est déjà celle d'un citoyen engagé. Donc pour moi, la politique au sens de politique politicienne, enfin voilà.
Ouais. On a compris.
En parallèle du livre, on le disait, vous mettez en scène Les Justes de Camus au Théâtre du Châtelet. Les Justes, on le rappelle, c'est l'histoire d'un groupe de révolutionnaires en 1905 en Russie qui décide de tuer le grand-duc pour mettre fin à sa tyrannie. Au cœur de la pièce, il y a la notion de violence légitime. Pour vous, quand l'oppression est trop forte et qu'on ne peut pas être entendu par d'autres moyens, la violence peut devenir légitime ?
Oui, mais alors comme Camus, c'est qu'il y a des limites. En fait, c'est la proposition de Camus, c'est-à-dire que est-ce que la fin justifie les moyens ? Lui, clairement, dit non. Et dit que la limite, ce sont les innocents et les enfants. Et en face de lui, il a un adversaire, quelqu'un qui est avec lui, qui est Stéphane, qui lui dit non, ça n'a pas de limite. Et ces deux idées se confrontent. Et on sait que Camus a écrit Les Justes en réponse aux mains sales de Sartre, où Sartre disait, lui, d'une certaine manière, que la fin justifie les moyens. Et donc voilà, donc moi je pense que non, la révolution, oui, la révolte, oui, mais il y a des limites.
Il est l'anti-Machiavel du 21e siècle. Oui, je l'annonce, c'est comme ça. Abdel Malik est notre invité. Le livre s'intitule « Méchante blessure ». Il est paru chez Plon.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue dans une ambiance plus délétère que jamais puisque va bientôt entrer en piste le plus pernicieux de nos compétiteurs. Là où les autres se contentent naïvement d'essayer d'être bons, lui, il sait que pour gagner, il faut non seulement être bon, mais que les autres soient mauvais. D'où sa stratégie, le dénigrement systématique. Mathieu Charrier, comment vous avez trouvé la chronique de Jean-Philippe tout à l'heure ?
C'est une cata.
Évidemment. Oh, un mot pour Eva ?
Tu loupes une occasion pour picoler. Hein.
Attention, Mathieu Charrier arrive, tous aux abris.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le premier pugilat journalistique du monde. Pendant 2 heures, les plus valeureux journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture. J'ai un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont l'histoire ou l'info vous aura fait dire, comme Eva la première fois qu'elle m'a vu dans les vestiaires de la piscine.
Waouh, je suis épatée.
Dans le rôle de l'invité arbitre, c'est Abdel Malik qui nous accompagne aujourd'hui. Oh, je m'envoie des fleurs parfois.
Ne riez pas,
Abdel Malik qui nous accompagne pour fêter la sortie de son premier roman Méchante blessure et son adaptation des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet jusqu'au 19 octobre. On continue d'en parler, mon cher Abdel Malik, mais la compétition n'attend pas. Dans les starting blocks, un homme trépigne, un homme devenu journaliste, mais qui, comme moi, est certainement passé à côté d'une belle carrière d'acteur. La preuve, notre bout d'essai l'autre jour pour le remake de La Cage aux Folles était franchement au niveau de Poiret et Serreau. Les pingouins et les manchots sont des oiseaux marins. Un seul des deux vole. Lequel ?
Les manchots, ils sont manchots.
Il est peut-être pas trop tard, Mathieu. On va s'inscrire en coupe Laurent. En tout cas, Matounet, ce matin, vous avez essayé de nous parler d'un sujet fort. Cessez de rire parce que là, l'enchaînement va être compliqué. Oui. Vous nous parlez de la façon dont la bande dessinée, qui est votre autre spécialité, oui, rappelons-le, donne aujourd'hui la parole aux victimes d'agressions sexuelles.
Oui, parce que viennent de sortir conjointement deux bandes dessinées qui parlent des agressions sexuelles que subissent les femmes. D'abord, du choc que ça représente, puis de la reconstruction. La première, elle s'appelle « Les crocodiles sont toujours là ». Les crocodiles, ce sont les hommes, justement, lorsqu'ils se transforment en prédateurs sexuels. Et toujours là, parce qu'il y avait déjà eu, il y a 5 ans, une première bande dessinée autour de ces crocodiles. Et, sauf qu'on se rend compte qu'entre-temps, l'affaire Weinstein, la vague MeToo, on se rend compte en lisant ces bandes dessinées que pas grand-chose n'a changé. Les auteurs, Thomas Mathieu et Juliette Boutan, racontent notamment comment, le soir de la victoire des Bleus en Coupe du Monde, on s'en rappelle tous, en juillet 2018, des dizaines de femmes se sont faites agresser sur les Champs-Élysées. Les hommes, évidemment, profitant de la liesse pour se serrer, pour se frotter, etc. Où il y a aussi une histoire incroyable, tout est inspiré d'histoires vraies. Une histoire d'un papa qui envoie son fils de 4 ans. Et il lui dit comme ça, vas-y, va draguer les jeunes femmes là qui sont là. Le gamin a 4 ans. Hein. Va draguer les jeunes femmes, va te faire prendre en photo avec elles. Alors, il fait ça sur le ton de la plaisanterie, évidemment, mais il dit, allez, drague-les, je vais les prendre en photo, ça vous dérange pas, mesdames hein? Ben, si, en fait, si. Ça les dérange, les dames, parce que si on se laisse même avec un gamin de 4 ans, c'est pas une arme pour draguer ou faire des choses comme ça.
Vous-même, Mathieu, vous avez l'impression que les messages passent mieux en dessin.
Oui, parce que ce qui est fort, en fait, dans cette bande dessinée, notamment les crocodiles, c'est que tout le dessin est en noir et blanc, sauf les hommes prédateurs sexuels qui sont représentés sous forme de crocodiles et donc en vert. Ce qui fait que dans le dessin, ils ressortent encore plus que tout ce qui se passe autour et du coup ils se font encore plus menaçants et c'est ça la force de la bande dessinée, c'est que vous pouvez comme ça glisser quelques petites subtilités que vous ne voyez pas forcément à l'image quand vous mettez en scène, si vous faisiez jouer les scènes par des acteurs ou par, par des figurants. Vous ne pourriez pas avoir cette opposition entre ces crocodiles verts menaçants, parce qu'on les voit se tapir parfois dans, des coins, dans le coin d'une pièce. Et la femme, au début, elle ne se rend pas compte qu'ils sont là à les observer. Vous savez, c'est ces fameux jeux de regard où toutes les femmes vous racontent que parfois elles se sentent oppressées juste par des regards. Et puis aussi une deuxième bande dessinée qui est sortie, qui s'appelle Touché. Et là, l'auteur dresse le portrait de trois femmes victimes d'agressions sexuelles. Il y a Tamara qui enchaîne du coup les excès pour tenter d'oublier cette agression. Il y a Nicole qui, elle, s'isole complètement. Et puis, il y a aussi Lucie qui, désormais, a tellement peur qu'elle dort chez elle avec un couteau à la main. C'est un peu les trois réactions typiques, entre guillemets, de femmes victimes d'agressions sexuelles. Et ces trois dames-là vont suivre une thérapie à base d'escrime, qui est une thérapie qui existe dans la vraie vie, pour essayer comme ça d'exorciser un peu leur mal-être. Parce que ce qui est pratique avec l'escrime, c'est qu'évidemment, derrière le masque de protecteur de votre adversaire, vous mettez qui vous voulez. Et l'auteur raconte qu'en fait, c'est une thérapie qui fait beaucoup de bien à ces femmes-là, parce que l'escrime, c'est à la fois se défouler, à la fois devoir contrôler évidemment ses coups. Donc voilà, c'est deux bandes dessinées que je vous conseille, et ça permet de dire aussi et redire que la bande dessinée, justement, est un média qui permet de parler de tous ces thèmes-là et de montrer les choses parfois de façon assez crue, parce que comme c'est du dessin, on peut tout montrer et presque tout dire, ce qu'on peut pas forcément faire au cinéma ou même dans les chansons, faire attention aux paroles, ça peut vite créer des polémiques. Là, on peut tout montrer, donc c'est deux bandes dessinées. Oui,
c'est une belle chronique, Mathieu.
Mais
vous n'êtes pas allé jusqu'à nous apporter ces bandes dessinées en studio pour notre invité Adèle Malik.
Je pourrais les ramener.
Ça aurait pu l'intéresser, parce que je crois que les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles, ça fait partie de vos combats, Adèle Malik.
Ouais. Moi, j'ai. Il y a eu que des femmes autour de moi, en fait. J'ai été élevé par ma mère seule. Elle nous a élevés. On était sept, et mes tantes et quasiment tous mes oncles, en fait, n'étaient pas là. En fait, quasiment tous. Donc, il y a toujours. Et ce qui fait que j'ai jamais. Vraiment, et je le dis sans flagornerie aucune, mais j'ai vu concrètement que les femmes étaient plus fortes que les hommes, concrètement en fait, puisque les hommes avaient abandonné concrètement d'une certaine manière, enfin de toutes les manières j'ai envie de dire. Donc ce qui fait que pour moi c'est hyper important, et d'autant plus aujourd'hui. Et pourquoi pour moi l'art, la culture, enfin c'est important, parce que nous autres artistes on travaille directement sur les imaginaires, et pour moi il y a quand même une culture de l'homme qui rabaisse la femme. C'est culturel, et c'est même des réflexes, des choses qui sont pas pensées ou
c'est inconscient.
Et donc nous autres, le fait de parler de ça, le fait d'inviter à réfléchir sur ça, et ben ça nous fait aussi prendre conscience chacun de nous là où on se trouve en tant qu'homme sur notre rapport au monde et notre rapport aux femmes particulièrement. Donc c'est en ce sens là où je pense que nous autres artistes on est hyper important. Voilà.
Il met en scène Les Justes au Théâtre du Châtelet à Paris et il publie un premier roman, Méchante Blessure. Abdel Malik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'Équipée Sauvage continue avec en ligne de mire ce moment que le monde du rap attendait. La battle entre Abdel Malik et Snoop Doggy Rock, la puff daddy du 06, qui a forgé son flow dans les ruelles malfamées du Vieux-Nice quand on y croisait des grosses Kyra comme Dick Rivers. Alors on aurait pu organiser une battle de rap.
Yo, mais le rap c'est pas du tout ma cam.
Mais pour qu'Abdel Malik ait une chance, on a préféré faire un quiz sur la littérature. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il nous accompagne cet après-midi pour sa mise en scène des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris et pour son premier roman Méchante Blessure chez Plon. On connaît évidemment Abdel Malik, votre carrière de rappeur. Aujourd'hui, vous vous démultipliez. C'est quoi l'idée? C'est de se dire qu'en multipliant les supports, on augmente les chances de faire passer son message?
Non, parce que tout simplement, je me considère comme artiste. Vous savez, le parallèle, c'est le suivant. Je suis noir, musulman, je viens de cité, etc. Mais je suis avant tout français, je suis avant tout un être humain. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est de dire qu'on est à la fois, un et multiple. Et c'est vrai que tous les artistes que j'aime, si on parle de Camus, par exemple, il est à la fois dramaturge, il est à la fois philosophe, il est à la fois journaliste. Et voilà, l'idée, c'est se rapprocher au plus près de son émotion et d'utiliser la forme qui correspond le mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise différents médiums, en partant du principe que ce qui est important, de toute façon, c'est d'être soi. Qu'importe ce qu'on fait, mais être soi réellement.
Alors Abdel Malik, c'est un passage obligé pour l'invité, qu'il fait toujours avec beaucoup d'enthousiasme.
C'est pathétique.
Sauf Garditi. Tous les jours, un quiz thématisé oppose l'invité à Eva Rock. Alors aujourd'hui, je voulais rendre hommage à la plume de tous les rappeurs de France et de Navarre. Le principe est simple. Uh-huh. Je vous donne des citations. Vous me dites rappeur ou pas rappeur. Pensez que la citation vient d'un rappeur ou pas. D'accord. C'est chacun son tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Si c'est un rappeur, on écoutera la réponse en chanson. Eva Rock. Si je vous dis, vous commencez. Vous prenez la main, comme disait Julien Lepers. Vous prenez la main. Eva Rock, si je vous dis, quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant.
Vous me dites rappeur ou pas rappeur?
C'est moche ce que vous faites.
Ah, c'est très moche. Ah ouais, c'est dégueulasse.
Très moche.
Ouais, rappeur.
Pas rappeur.
Pas rappeur.
Non. Quand même. Philosophe du 20e siècle, fin 20e siècle, début 21e. Jean-Claude Van Damme.
Oh, ouais. Non, il est plus rappeur que philosophe.
Ah
non,
qu'est-ce que rappeur,
hein. ça y est.
Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est rappeur que philosophe.
Ça ne veut rien dire.
Je pensais que c'était Jules qui avait écrit ça. Pardon.
Si je vous dis les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars, vous me dites rappeur ou pas rappeur? On vous sent dubitatif là-dessus. Hein.
Ben, franchement, ouais, dubitatif, c'est le cas de le dire. Je sais pas, je dirais pas rappeur. Rappeur ?
Rappeur. Et pas n'importe lequel. Okay. On écoute.
Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars.
On salue MC Solar.
Ah, ouais, et oui. Claude MC.
Eva Rock, si je vous dis, un ami est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant de trouver le bon. Vous me dites rappeur ou pas rappeur ?
Vas-y, redites-le pour voir si le flow
un ami, un ami, c'est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver le bon.
Je dirais rappeur.
Eh bien non, pas rappeur.
Ah non, c'est trop dur,
c'est
votre
Alfred
jeu.
C'est Alfred de Musset.
C'est pas vrai.
Mais oui, comme je vous le dis, Eva, nous avons enquêté.
Il mangeait des melons.
Je ne sais pas s'il mangeait des melons.
Je crois qu'il faisait du rap. Alfred de Musset, il faisait du rap.
Franchement, la phrase, elle est géniale. Ah, c'est pas mal. Sincèrement.
Abdelmalik, si je vous dis, donne-moi mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite car c'est le reflet de ton échec. Vous me dites rappeur ou philosophe?
Waouh.
Ah, les deux.
Mais oui. Ouais. Mais sauf qu'il faut choisir.
Ouais.
C'est ça le truc.
Il faut choisir. Rappeur ou philosophe?
Vous pouvez répéter?
Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite car c'est le reflet de ton échec.
Bon, allez, je vais dire rappeur.
Ouais. Rappeur, vous avez raison. C'est Lafouine.
Ouais. Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite. Car c'est le reflet de ton échec.
Yeah, je suis dans mon jacuzzi.
Ça pourrait être du Mathieu Charrier, ça. quand il remporte la compétition de l'équipe sauvage.
Je prends bien. Oui.
Eva Rock, si je vous dis, si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie? Rappeur ou pas rappeur?
Pas rappeur.
Pas rappeur? Vous êtes sûr? Tant pis, rappeur.
Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie?
Oula, c'est très syncopé, ça. C'était qui? C'était
Booba.
Ah ouais? Ah oui, mais je suis complètement nul en Booba.
Vous êtes un culte en Booba. Vous êtes un culte en Booba, car vous êtes plus Abdelmalik, je vous sens.
Oui, je préfère, oui.
Abdelmalik, si je vous dis, une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Rappeur ou pas rappeur?
Non, mais c'est pas la phase originale. La phase originale, c'est en Afrique, lorsqu'un vieil homme meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ouais. C'est ça l'original.
Il a dû la choper là, en fait.
Ouais, fatalement.
Et fatalement, il l'a adapté. C'est un rappeur.
Un
rappeur, c'était.
Une grand-mère qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Et comme d'habitude, c'est le silence.
C'était
qui
le rappeur Giorgio, la selle Saint-Cloud. Et donc, on vient d'apprendre d'où venait cette expression grâce à Abdelmalik. Eva Rock, si je vous dis, je suis adroit de la main gauche et je suis. Moi, j'aurais pas pu faire rappeur en revanche. Mon flow est extrêmement limité aujourd'hui. Hein. Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite. Rappeur ou pas rappeur?
Pas rappeur.
Pas rappeur? Ça se discute. Raymond DeVos.
Oui,
on va refaire ce quiz. Ça ne va pas. Raymond DeVos, c'est un pionnier du rap. Abdelmalik, attention, cette question va vous départager. Si je vous dis, ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Vous me dites rappeur ou pas rappeur?
Non.
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
Elle est horrible, cette phrase.
Ouais. Bon, je dirais rappeur, allez, tiens.
Et non, c'est Pierre Desproges.
Ah oui, c'est ça.
Oui. C'était une autre époque.
Les rappeurs aussi.
C'est Abdelmalik qui remporte le quiz.
Bravo
Abdelmalik. Son premier roman, Méchante blessure, est disponible chez Plon et vous pouvez applaudir sa mise en scène des Justes au Théâtre du Châtelet. Abdelmalik passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, vous me connaissez Jean-Philippe.
Fan absolu de Mireille Mathieu.
Bon non, aussi, évidemment. Mais je veux dire, vous me connaissez, j'aime bien rigoler. Mais sous la cuirasse du fiel, il y a aussi un cœur qui bat. Un cœur d'enfant potelé qui ne demande qu'à s'émerveiller du monde qui l'entoure. Oui. Une sensibilité enfantine qui se manifeste notamment quand j'entends le mot ourson.
Pour rappeler du loup de Jean-Jacques Hano, on se rappelle tous du petit ourson qu'on voulait avoir chez nous.
Oh oui.
Bah en fait, il y en avait 12 petits oursons.
12 petits oursons.
Et bien aujourd'hui, dans Régional Géographique, notre rubrique en province sur ces initiatives étonnantes près de chez vous, je vais une fois de plus retrouver mon âme d'enfant, puisque nous irons à la rencontre d'un passionné de musique qui a décidé d'enregistrer les sons de la planète. Mais heureusement, l'équipe est sauvage n'est pas que les sons qui parlent à mon âme d'enfant, c'est aussi les sons qui parlent à mon âme d'adulte. Voici Kiss, Prince sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, en s'efforçant, comme notre invité Abdel Malik, de déjouer les clichés. C'est pourquoi nous prenons maintenant la direction de Marseille.
Je danse le Mia.
Ah bah oui.
Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous faites découvrir un personnage assez incroyable. Il a fait le tour du monde plusieurs fois, mandaté par l'UNESCO, passionné par la nature. C'est un chasseur de sons.
C'est ça. Il s'appelle Christian Holl et lui, ce qu'il traque, c'est l'âme sonore du monde. Des bruits que vous n'entendrez jamais. C'est comme si votre oreille se retrouvait au cœur d'un arbre ou au cœur d'une pierre, à l'intérieur de la matière. Alors, c'est un peu compliqué, c'est vrai, pour mieux comprendre. Je vous propose une petite démonstration. Écoutez. Ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ?
Une grenouille ?
Une grenouille, mais non, c'est les bruits de la terre, et là, c'est les bruits des animaux.
Ouais, votre ventre qui gargouille avant,
ah, oui,
quand vous avez faim.
À l'heure du goûter.
Ouais.
Non, c'est pas ça.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est, Nathalie ?
Eh bien, c'est de la sève qui coule à l'intérieur d'un baobab. Un son totalement unique, attrapé grâce à des capteurs super puissants, vous imaginez, stéthoscope et autres micros. Christian Holl a mis 6 mois pour élaborer cet enregistrement, trouver la technique permettant de capter le cœur de la matière. Lui, qui en plus n'entend que d'une oreille, propose une relecture de notre planète à travers les sonorités, parfois même un bond dans le temps.
Je raconte l'histoire d'un pays, d'une culture à travers le son. Comme je voulais, par exemple, enregistrer, aller sur les traces des sons de la préhistoire. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la préhistoire ? Eh bien, il nous reste les varans de Komodo, qui sont d'ailleurs inscrits au patrimoine mondial. Et j'ai voulu enregistrer la pulsation cardiaque du varan, c'est une chose qui n'avait jamais été faite. Et on est dans un tambour animal qui peut nous émouvoir énormément, parce qu'on est à la genèse de la Terre. Et c'est fabuleux de voir qu'il y a cette passerelle, grâce au son, entre le passé et le présent, en fin de compte.
Mais comment il a fait ça, Nathalie de...
Bah avec un stéthoscope et un petit varan.
Bah voilà. Hein. Oui, mais voilà, il a réussi à...
Vous avez vu la tête du varan ?
Bon, il faut un petit peu de courage, Eva. Vous savez, je n'en suis pas démunie.
Oui,
ça ne vous fait pas penser un peu à Jurassic Park ? Moi, ça m'a fait penser à ça.
Ah si, un peu, c'est vrai.
Alors cette fois, je vous propose un peu plus de douceur et de poésie. Écoutez encore, ça sort de la terre.
Un geyser. Non.
Un volcan ?
Non.
Ah, ou des fourmis qui sortent de terre.
Non, c'est pas tout à fait ça.
Un dîner à l'Indien qui passe mal.
Ça va vous faire rire.
C'est la pousse
d'un haricot vert.
Mais il pousse vite, cet haricot. C'est un haricot magique.
Écoutez les explications de notre chasseur de son.
On me dit à l'écoute de ça qu'on n'a plus envie de manger des haricots. Mais je trouve que c'est au contraire fabuleux parce que ça permet de montrer comment, à travers quelque chose qui peut paraître anodin, toute la beauté et la réalité de la vie. Alors, ce n'est pas du tout accélérer, c'est juste remonter. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur mon magnétophone, je coupe et j'édite et j'ai 72 heures pour 20 secondes.
Voilà la pousse d'un haricot vert tout sonore en 20 secondes. Je pense que vous n'aviez jamais entendu ça. Et Christian Holl prépare son prochain voyage. Ce sera l'Égypte, aux sources du Nil, pour capter encore de nouveaux sons.
Ah, c'est génial.
Eva est émerveillée.
Ah, je suis émerveillée.
Elle aimerait entendre la pousse d'une truffe, d'une truffe blanche d'Alba. Elle m'a-t-elle dit.
Je vais demander à Christian Holl.
Merci d'avance. Merci beaucoup, Nathalie Chevance. Il signe un premier roman baptisé « Méchante blessure » et une mise en scène des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris. Le prolifique Abdel Malik nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
Apprendre, s'émerveiller, rire avec, mais jamais contre, sauf concernant Eva Rock pour qui il y a une dérogation. Voilà le cahier des charges de l'équipe est sauvage. 2 heures d'une farouche compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui, je peux vous l'assurer avec Eva, on est passé hier soir pour vérifier, ne comptent pas leurs heures. Hein. Passé 20h, ils étaient encore nombreux dans la rédaction.
Ça sentait la bœuf de partout.
Oui, bref, chacun ses méthodes de travail à suivre. 2 nouveaux concurrents et donc 2 nouveaux sujets en compétition. Vous apprendrez notamment pourquoi les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous découvrirez la nouvelle poupée Barbie, moins girly, pour s'adapter à l'évolution de la société et des mentalités.
Bonjour les hommes.
Beaucoup moins girly cette poupée Barbie.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Depuis le lancement de cette impitoyable compétition qui oppose chaque après-midi les journalistes d'Europe 1, il faut bien reconnaître que l'ambiance générale dans la rédaction n'est plus la même. Tout le monde s'épie,
Tout le monde se jauge, les colibés vont bon train. Alors de grâce, messieurs, avant de céder la place à deux nouveaux concurrents pour la deuxième manche de l'équipée sauvage, donnons l'exemple. Mathieu Charrier, un mot fair play pour votre rival du jour.
J'ai oublié son nom, mais...
Jean-Philippe Ballas, ça fait 10 ans que vous bossez dans le même open space, bon tant pis. Heureusement, l'équipée sauvage, c'est aussi de belles rencontres. Et parfois même des coups de foudre entre chroniqueurs et invités, comme hier, entre le jeune Vincent Lacoste, l'étoile du cinéma français, et la tout aussi jeune Angèle Châtelier, notre blogueuse musique. C'était niais, mais c'était beau.
Ouais, je suis née en 93 aussi.
Eh oui.
T'es de quel mois ?
Juillet.
Prenez une chambre d'hôtel, c'était pour ça.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. Deux heures pour rire et découvrir avec les meilleurs journalistes de la rédac et un invité d'honneur aujourd'hui, c'est le touche-à-tout de génie Abdelmalik qui nous accompagne. Il est le Rémi Brica de l'entertainment moderne. On le connaissait rappeur, le voici metteur en scène et écrivain. Son premier roman est disponible chez Plon, il s'intitule Méchante blessure. On parlait de la question de l'identité qui traverse ce roman. Il y a une autre, un autre thème très fort dans ce roman, c'est la spiritualité. On sait que vous êtes quelqu'un de, qui a une vraie vie spirituelle, Abdelmalik. Pour vous, c'est quelque chose, la religion, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est, est-ce que c'est, vous diriez que c'est ça qui vous a sauvé quelque part ou pas ?
Oui, mais soyons précis parce que on peut être spirituel sans avoir de religion ou sans croire en Dieu. La religion est un réceptacle en réalité, mais la spiritualité justement c'est quelque chose qui nous embrasse tous et qui nous intéresse tous d'une certaine manière comme parce qu'on a quelque chose, on a beau être singulier, différent, on a quelque chose en commun qui est notre humanité en fait. Et la spiritualité, c'est la manifestation, à la fois la manifestation de cette humanité, cette idée qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous sépare et qui nous lie tous. Donc voilà, donc pour moi, c'est hyper important parce que c'est l'essence des choses. C'est ce qui donne du sens aux choses également. Donc pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'éminemment important. Donc on peut dire oui.
On continue de parler de votre actu, le roman et la pièce Les Justes au Théâtre du Châtelet à Paris que vous mettez en scène. Mais l'heure est venue d'accueillir nos deux derniers concurrents du jour. À ma gauche, vous vous souvenez du célèbre personnage de KDO, Jean-Michel Amoitié ? Je vous présente son fils, Jean-Michel Ademi.
Je suis allé un paquet de fois au Louvre, mais je suis allé qu'une seule fois dans la... En même temps, il y a toujours tellement de...
Bonjour Jérôme Lacroix, vous êtes l'homme qui ne termine jamais ses phrases.
Bonjour Mathieu.
Et
bonjour,
notre expert
bonjour,
sport.
Bonjour.
Et vous auriez d'ailleurs été un grand sportif si vous n'avez pas eu cette manie de vous arrêter à la mi-temps des matchs. C'est votre petite spécificité.
Il faut savoir être efficace quand on est sur le terrain, peu importe le temps qu'on y passe.
Alors quel sujet allez-vous nous proposer aujourd'hui pour l'emporter ?
Je m'adresse à vous qui nous écoutez, et vous peut-être Mathieu, Eva, Abdelmalik, si vous faites de la course, du running comme on dit.
Ça m'arrive assez souvent.
Si vous allez par exemple dans un parc, n'importe où, vous ne le savez pas, mais vous courez toujours dans le même sens.
Pas du tout.
Mais si.
Et même certaines personnes sont énervées par les gens qui courent dans l'autre sens.
Ce
sens,
par exemple.
Ce sens est le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça ne doit rien, mais rien du tout au hasard.
Ah, c'est des raisons biologiques. Bon, vous nous direz. À vos côtés, s'il vous plaît, un peu de fair play, Jérôme. Ça ne vous ennuie pas que je prenne le temps de présenter votre rival du jour ?
Oh là là, que c'est relou. Quel temps on perd.
Bon, je vous en prie, restons classe, d'autant que voici votre reine. Actuellement deuxième du championnat européen, voici la chef du service société. Bonjour Ève Roger.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le monde change bonjour. Et la poupée Barbie aussi. Vous nous parlez de l'évolution de cette poupée emblématique.
Et oui, c'est bientôt Noël. Et donc, je vais vous proposer de parler de ces poupées qui n'ont pas de genre. Ni fille, ni garçon. Ken et Barbie n'ont plus qu'à aller se rhabiller.
Mais attendez, la poupée Barbie, il ne va plus y avoir une poupée Barbie et un Ken ?
Si, bien sûr. Mais c'est une nouvelle proposition du fabricant américain Mattel.
Les secrets du sport ou la métamorphose de Barbie, quel sujet l'emportera aujourd'hui ? Vous votez via Twitter en sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Abdelmalik, vous sortez un premier roman, vous mettez en scène Les Justes de Camus au Théâtre du Châtelet. Vous êtes un des piliers du hip-hop français. Si vous pouviez monter dans la DeLorean de Retour vers le futur et aller parler au petit Régis, votre prénom à l'état civil dans la banlieue de Strasbourg, vous lui diriez quoi ?
Je lui dirais de ne pas avoir peur et que tout va bien se passer. Je lui dirais ça.
Eva ?
N'ayez pas peur, c'est les mots que vous avez prononcés aux Victoires de la Musique en 2008 à la fin de votre allocution. Ouais. C'était n'ayez pas peur de quoi et de qui ?
De tout.
De tout ?
Parce qu'on vit dans un monde quand même qui est basé sur la peur. La peur de tout, la peur du lendemain, la peur d'être soi véritablement. Toutes les formes de peur en fait. Et c'est pour moi, c'est le frein absolu. C'est ce qui empêche d'abord d'être soi et puis c'est ce qui empêche aussi d'aller vers les autres et de pouvoir se mettre en lien. Et c'est vrai qu'on est dans une société quand même, dans un monde finalement qui magnifie la peur, qui se base sur la peur. Et ça, c'est horrible. Alors, quand je dis n'ayez pas peur, voilà. Il faut dépasser toutes les peurs si on a envie véritablement de s'épanouir pleinement.
Mais vous avez l'impression que ça s'aggrave depuis 2008, hein, cette peur qu'on peut avoir de l'autre ou des autres sociétés ou...
Ben, tout à l'heure, il y a un de vos chroniqueurs qui parlait de Trump, par exemple. Mmh. Et on voit la situation de l'Europe aujourd'hui. On voit comment est traitée la problématique migratoire. On voit les violences policières, on voit toutes ces problématiques, c'est toujours basé sur la peur. Et au lieu d'en alternative, de mettre à côté aussi des choses qui vont bien, les choses qui, on appuie toujours sur ce côté-là. Et ça, enfin davantage. Et pour moi, ça c'est une erreur fondamentale. Et c'est aussi à cause de ça qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Alors Abdelmalik, votre nom est désormais connu de tous, enfin je crois. J'ai quand même tenu à vérifier ce qu'il évoquait aux Français, enfin en l'occurrence les habitants du 15e arrondissement de Paris, dans un rayon de 300 mètres autour d'Europe 1, c'est les moyens Europe 1. Voici non pas un micro-trottoir, indigne de notre fougue créative, mais un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
Abdelmalik.
Ah moi j'aime bien, hein. Y a des rappeurs où je change... Mais lui, je peux l'écouter.
C'est un rappeur, non? C'est un gars du 9-3, lui. C'est de la Courneuve, je crois.
C'est du rap, mais en même temps, c'est un peu du slam, quand même. Et c'est assez poétique.
Le slam, c'est pas comme le... Comment dire? C'est un sport, non? Je pense que c'est un truc que j'ai vu à la télé, c'est à peu près comme le patinage artistique.
C'est un gentil garçon, des paroles propres. J'ai déjà écouté et j'aime bien.
Abdelmalik. C'est qui Ah oui, c'est un bon.
Il a du style.
Il sait parler et il prouve aux gens ce qu'il sait faire, tout ça, que c'est pas des racailles, des trucs. Il n'y a pas de cases en fait, alors qu'on nous met dans des cases. C'est un bon.
Du rap poétique qui tend vers le slam, ça j'imagine que ça vous va.
Et le patinage artistique.
Et le patinage artistique, ça. Effectivement, c'est la réflexion la plus fine de ce contre-trait. Mais il y a aussi, j'entends aussi ça, un gentil garçon, des paroles propres. C'est un peu le revers de la médaille Abdelmalik. C'est-à-dire que dans un milieu, le rap plaît beaucoup aux jeunes, et c'est souvent celui qui parle le plus fort qui est le plus entendu. Vous parlez pas trop fort, Abdelmalik, vous êtes tout en finesse. Donc du coup, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour vous de vous dire que peut-être il y a certains jeunes que vous n'arrivez pas à toucher parce qu'ils écoutent plus les mecs qui sont sur des humeurs avec des poufs?
Moi, mon idée, c'est pas de toucher plus. Mon idée, c'est d'être moi plus. Je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ou d'être ce qu'ils voudraient que je sois. Je suis là pour être moi. Et c'est déjà un travail. C'est compliqué d'être vraiment soi tout le temps. Et de voilà. Donc ma démarche, c'est celle-là. C'est de cultiver la sincérité. Donc à partir de là, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, j'ai envie de dire tant pis en fait. Donc voilà.
Il met en scène Les Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris. On va en parler avec Eva Rock qui a vu la pièce pour nous. Il publie également son premier roman chez Plomb, Méchante blessure. Abdelmalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Ève Roger et Jérôme Lacroix sont à mes côtés, prêts à tout pour décrocher les 3 points que seul l'invité peut leur décerner. Une course folle qui peut générer une surenchère dangereuse. Et à ce stade, on ne peut que prier pour que Jérôme Lacroix ne tente pas le tout pour le tout avec une imitation de Céline Dion. Non, Gégé, de grâce, non.
Calice Christa Bernac, t'arrêtes donc belle tes niaiseries, toi.
Abdelmalik, la direction d'Europe 1 vous présente ses excuses et réfléchit à une indemnisation. Heureusement, il est plus doué en sport qu'en imitation. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Si nous sommes réunis aujourd'hui devant le Seigneur, c'est pour rendre un ultime hommage. Un ultime hommage à celle qui n'est plus et qui nous manquera, la belle ambiance qui régnait dans la rédaction d'Europe 1. Fini les sourires à la photocopieuse et les blagues potaches à la cantine.
Non, juste un doigt.
Même si la vanne ne marchait pas avec le jus de pomme, je vous l'ai toujours dit, Eva. Non, désormais, c'est la guerre de tous contre tous, plus aucune solidarité. Pour être élu chroniqueur du jour, nos journalistes passent leur temps à tirer la couverture à eux, quitte à dire absolument n'importe quoi.
On me demande souvent si je suis pas surfeur.
Oui, absolument tout. Même Jérôme Lacroix dit n'importe quoi. Jérôme, vous nous parlez sport aujourd'hui, c'est votre spécialité, et vous nous révélez quelque chose d'étonnant. On court toujours dans le même sens.
Le sujet dont je vous parle cet après-midi...
Ça fait déjà beaucoup rire Ève Roger qui ne croit pas, mais alors du tout, qui ne mise pas un copec sur ce sujet.
Ce sujet dont je vous parle est né sur une ligne de crête. J'ai ressenti un vertige, celui comparable à la réception de cette question. Papa, comment on fait les bébés? Retour, semaine dernière, championnat du monde d'athlétisme au Qatar. Donc, et ma participation active depuis mon canapé devant ma télé, avec à mes côtés mon jeune fils de 4 ans et demi. Alors, nous regardons la télé, un groupe d'athlètes commence à suer sur la piste, à faire des tours de piste, plusieurs tours. Et là, la question de mon garçon. Mais papa, pourquoi il court à l'envers? À l'envers? Bah oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais pourquoi tu te poses cette question et pourquoi tu me demandes à moi? Je puise donc dans mon cerveau, bonjour Google, recherche, pourquoi les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Et là, une incroyable fenêtre s'ouvre.
ce n'est pas du tout dû au hasard et j'ai appris des centaines de choses. 1896, premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, les athlètes courent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le choix des instances à l'époque, un choix arbitraire. Mais très vite, les athlètes râlent. On ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas naturel. Alors,
mais c'est vrai que je ne pourrais pas courir sur un stade dans l'autre sens.
Vous allez entendre. Alors, dès 1913, on inverse, on partira dans l'autre sens, si important que c'est inscrit désormais dans les statuts de la Fédération internationale d'athlétisme.
Alors, je le ressens là quand je le visualise, mais pourquoi ce n'est pas naturel ?
Les athlètes ne se sentaient pas à l'aise en courant de la gauche vers la droite.
Pas sauf les gauchers, peut-être.
Alors, non. Explication, première théorie. Quand on court dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il faut imaginer une piste d'athlétisme, oui. On a tous vu des courses, il faut imaginer les athlètes courir dans l'autre sens que celui qu'on voit d'habitude dans le sens des aiguilles d'une montre. La force centrifuge exercée à alors, fait circuler le sang de la droite vers la gauche dans le cœur. Mais dans le cœur, le sang transite naturellement dans le sens opposé. Courir de la droite vers la gauche est donc moins fatigant pour l'organisme et ça permet d'aller plus vite. C'est la conclusion des physiologistes qui se sont penchés sur cette question dès le 19e siècle.
Mais ça a été prouvé par des études récentes, votre truc ?
Un scientifique japonais a fait courir 4 athlètes sur 400 mètres, donc un tour de piste, hein, 400 mètres, un coup dans le sens des aiguilles, un coup dans l'autre. Et conclusion, 2 secondes de mieux à l'arrivée quand il courait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une autre hypothèse va chercher, là pas dans notre cœur, mais dans notre cerveau. L'hémisphère droit, c'est celui qui est impliqué dans l'aspect cartographie de nos perceptions. Or, cet hémisphère droit, il a en charge la partie gauche de notre organisme. Voilà pourquoi on est plus à l'aise quand on court vers notre côté gauche. Ça améliore également la vision. On a une meilleure vision quand on court dans ce sens-là. Voilà pourquoi, selon la science, quand on doit prendre, par exemple, spontanément la fuite dans une direction aléatoire, eh ben 80% du temps, on part à gauche. C'est aussi pour ces raisons que les carrousels, par exemple, tournent aussi de la droite vers la gauche.
Ah oui, alors, c'est vrai, les manèges.
Oui, les manèges, oui.
Que vous prenez souvent, Eva.
Mais oui.
Alors, je termine en soulignant qu'il n'y a pas qu'en athlétisme qu'on court dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça vaut aussi pour le cyclisme sur piste ou dans le baseball également. Et alors, on peut y voir aussi, en tout cas moi, un symbole, courir à l'envers, contre les aiguilles, contre le temps.
Ça, c'est votre côté poète.
Pour battre le chronomètre.
Le Rimbaud du journalisme. Abdelmalik, vous avez appris quelque chose là.
Ah ouais, carrément, carrément. Passionnant.
Eh bien, écoutez, Jérôme, franchement.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que même.
Ça
dans
partait
les parcs...
mal sur le papier.
Non, mais, c'est vrai, même dans les
même
parcs.
Même dans les parcs, qu'est-ce qui se passe dans les parcs ?
Eh bien, on court dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Mmh. Oui. Instinctivement, c'est naturel.
C'est vraiment un truc naturel. Et oui, quand vous avez quelqu'un en face qui arrive parce qu'il n'a pas couru dans le bon sens, vous avez envie de le taper.
On a compris, Jérôme vient d'expliquer.
C'était la chronique de
Jérôme. C'était le petit plus inutile des baroques. Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.
Europe 1.
À suivre, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous dire merci à Eva Rock. Depuis qu'elle existe, on sait quoi regarder à la télé le soir, alors qu'avant, on ne savait pas, du coup, on regardait rien. Ou l'avenir.
Ah bon ?
Bah non, tu te doutes, j'essaie juste de t'encourager. Et du courage, il lui en faudra si une fois de plus, elle a décidé de nous parler d'un programme dont le titre a plus de 3 syllabes.
C'est une des adaptations de l'univers de Huff. Pardon. Ce programme court en 15 épisodes et une des Ce programme court en 15 épisodes et une des adaptations. Ah pardon, c'est pas le bon ton.
Allez, on sera tous derrière vous, Eva. Votre sélection télé et écran, ça sera juste après le titre de quelqu'un qui, lui, n'a aucun problème de diction. Voici La Vida Negra, Abdelmalik, doublement sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez L'équipe est sauvage, 2 heures pour noter et départager les journalistes d'Europe 1, sachant que vous ne pouvez pas me noter, moi. Je suis hors compétition et parfois c'est dommage. Car hier, mon interview du comédien Vincent Lacoste aurait mérité un 10 sur 10, voire les félicitations du jury. Mesdames et messieurs, découvrez vite la question la plus intelligente de l'année. On vous arrête beaucoup dans la rue pour vous féliciter ou...
Ouais, ça m'arrive assez souvent. Mais après, dans la rue, vous savez, en général, on marche.
Ah bon ? Abdelmalik est notre invité aujourd'hui. Je ne vous demande pas si on vous arrête dans la rue vu qu'on marche. On vous reçoit aujourd'hui pour une double actualité, la sortie de votre premier roman, Méchante blessure, et la mise en scène au théâtre du Châtelet à Paris des Justes de Camille. La pièce est une tragédie musicale, la musique de genre très différent, de l'électro au slam en passant par des chants yiddish, et le texte sont étroitement liés. Il y a quelques mois, vous publiez Le Jeune Noir à l'épée, un livre accompagné d'un album, un projet dont le titre fait référence à une peinture de Pierre Puvis de Chavagne. Vous, j'ai l'impression que pour vous résumer, moi je ne vous connaissais pas vraiment avant, Abdelmalik, mais c'est l'éclectisme total, le métissage, j'ai l'impression que c'est votre moteur.
Bah, en fait, c'est mon moteur, mais c'est tout simplement ce qui est en phase avec notre époque et le monde dans lequel on vit. On vit à l'ère, à l'heure de la mondialisation. Alors, mon idée, c'est de donner une âme à la mondialisation. Et donner une âme à la mondialisation et pas céder au, j'ai envie de dire aux esprits chagrins qui disent que c'est la fin de tout, que c'est-à-dire que voilà, chacun doit construire des murs, enfin bâtir l'Europe des barbelés, etc. Non, moi je suis pour le fait de dire que on peut avancer ensemble, et surtout si on parle par exemple de la problématique migratoire, ça a pas commencé hier, je veux dire depuis le début de l'humanité, c'est comme ça. On se croise, on se rencontre, on échange, on fait peuple, et l'idée c'est ça. Et comment aujourd'hui donner du sens à tout ça? Comment au 21e siècle, en France, en Europe, on peut faire peuple véritablement? Et c'est un peu ma réflexion à la fois en tant qu'artiste et citoyen.
Vous ne voulez pas passer un petit coup de fil à Emmanuel Macron? Il a lancé un débat sur l'immigration justement cette semaine. Quel cap pour la politique migratoire de la France? Vous pensez que c'est le moment pour ce débat?
Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'empathie. Voilà. Si on réfléchit avec empathie, si on réfléchit avec intelligence et bon sens, alors ce débat sert à quelque chose. Sinon, si c'est à d'autres fins, voilà, il adviendra ce qu'il advient toujours, malheureusement, quand on joue avec ces thématiques-là.
Est-ce que quand vous n'écrivez pas de séries ou de films, vous regardez beaucoup les séries ou des films?
J'en regarde quelques-unes, ouais.
Le problème, c'est qu'en tant que consommateur de séries, on perd désormais, selon une étude de l'Université d'Oxford, 17 minutes chaque soir à hésiter devant l'écran d'accueil de Netflix, ouais. Et parfois à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va regarder. Heureusement, il existe désormais 17 minutes de gagné. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur nos écrans?
Eh bien, je voudrais vous présenter Sophia. Elle a 13 ans, le bagou, mais souvent l'estomac vide.
À partir de la fin du mois, c'est la hesse, c'est la misère, t'as plus rien. Quand t'ouvres le frigo, il n'y a que la lumière, il y a les... Non, mais je vous jure, après, il y a les sauces, voilà. Mais dans le frigo, il n'y a rien, quoi.
Alors Sophia, elle a le sourire, elle vit avec sa maman, son frère et sa grand-mère dans un appartement qui est prêté par ATD Carmonde. Et elle est une des témoins d'un excellent documentaire que je vous conseille, qui est intitulé « Gosses de France », qui est diffusé ce soir sur France 2, alors à 23h25, mais que vous pouvez déjà regarder sur le site France.tv et que vous pouvez regarder pendant de longues semaines. C'est la réalisatrice Andrea Rawlings-Gaston qui est à l'origine de ce film, qui excelle d'ailleurs dans les films sociétaux, et elle a recueilli les témoignages de 4 jeunes pauvres aujourd'hui en France. À travers leurs récits, elles racontent les accidents de la vie qui touchent les parents et par ricochet les enfants, les frigos vides, les ventres vides, les difficultés à se loger, à lier des amitiés, les moqueries des autres quand vous avez une paire de baskets trouées, les conséquences sur les résultats scolaires et puis la confiance en soi aussi. Jassim, il a 17 ans par exemple, et il raconte en souriant sa relation avec les filles.
Être en précarité et être avec une fille, des fois c'est pas compatible parce qu'une fille elle aime qu'on la chouchoute. Et après il y a toujours des filles bien. Elle est bien. Il faut se dire la vérité. Et elle vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Mais c'est dur de trouver.
Alors, il garde quand même le sourire. En attendant, ce sont des témoignages brusques et abrupts pour raconter une réalité sociale qui est insupportable. Un enfant sur cinq en France est pauvre et 3 millions vivent sous le seuil de la pauvreté. Et pourtant, ces jeunes, ils gardent le sourire, ils croient encore en l'avenir. Qu'importe le déterminisme social, ils sont décidés à sortir de cette spirale de la pauvreté. Et leur courage, sincèrement, est la plus belle des leçons quand vous regardez ce documentaire, qui est absolument remarquable et qui est à voir ce soir sur France 2 ou sur France.tv, qui s'appelle Gosse de France.
Merci Eva Rock.
17... Avec un O que je prononce comme je peux.
Bah vous en sortez pas trop mal,
ça
Eva.
Ça va.
Europe 1.
À suivre, une révolution en perspective. La poupée Barbie, icône des petites filles depuis 3 générations, va changer. Fini le Ken musclé et sa copine Fifi. Désormais, les Barbies seront asexuées, ni filles ni garçons. Et qui sait, peut-être qu'en appuyant sur un bouton, elles lanceront même des slogans féministes.
Baladons-nous joyeusement la bite à l'air.
Elle Boisé nous dira si on en est là ou pas encore. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures de découverte éclectique en compagnie des meilleurs journalistes de la station qui se tirent la bourre pour décrocher le prestigieux titre de chroniqueur du jour sous l'œil impitoyable mais juste d'Abdel Malik, qui met en scène justement les justes au Théâtre du Châtelet jusqu'au 19 octobre. Et c'est tremblante qu'Ève Roger s'approche à présent du micro, car elle le sait, la compétition est terrible, d'autant qu'outre les tentatives de déstabilisation parfois odieuses de ses collègues...
Est-ce bien une femme ?
Elle doit aussi composer avec l'affreux Jojo qui présente cette émission et qui n'a aucun respect pour les chroniques, qu'il n'hésite pas à ponctuer de vannes désolantes.
Dans une autre vie, j'avais un patron, il était complètement colérique et tyrannique.
On embrasse Jean-Pierre Elkabbach.
Je suis allée voir un hypnothérapeute qui m'a conseillé quelque chose qui marchait très bien.
Changer de radio.
Ma pauvre
Ève Roger, je ne sais pas qui est le con qui présente cette émission, mais alors Ève, prenez une bonne inspiration et allez-y, vous nous parlez de la poupée Barbie.
Je vous parle d'une poupée d'un nouveau genre, c'est-à-dire sans genre, ni fille ni garçon, créée par le même fabricant que la poupée Barbie, donc l'américain Mattel, qui a aussi créé la femme la plus stéréotypée du monde, puisque vous connaissez ses mensurations.
Ah, je ne les connais pas par cœur.
Inhumaine. Hein.
gros seins, jambes infinies, blonde platine. Alors Barbie a 60 ans, donc elle, c'est vrai qu'elle s'est un peu émancipée, elle est devenue astronaute, chirurgienne, même présidente. Il y a 3 ans, elle est même devenue un peu plus humaine parce qu'elle est devenue un peu plus petite, un peu plus ronde et parfois même un peu plus grande. Mais là, ce sont ses cousines, c'est des poupées sans genre et ça, c'est vraiment une révolution.
Alors, à quoi ressemble-t-il ?
Alors, elles ne sont pas en vente en France, je n'ai pas pu les acheter, mais j'ai prévu des photos, je reconnais, ce n'est pas très radiophonique. En fait, c'est des poupées qui sont alternativement filles ou garçons en fonction des accessoires qu'on met.
Ah, c'est-à-dire, ici, c'est, malin,
c'est perruque ou pas perruque, c'est chapeau ou pas chapeau.
Vous nous suivez sur europe1.fr en vidéo, évidemment.
Alors, ces figurines ne sont pas des adultes, contrairement à la Barbie, ce sont des enfants qui ont eu 8-10 ans, parce que si elles étaient adultes, elles auraient des caractères sexués. Elles auraient des abdos comme vous,
moi. Ouais, exactement.
Elles auraient des gros seins comme Barbie.
Comme Barbie, oui. Voilà.
Vous avez failli déraper.
Donc, vous voyez, chaque figurine peut donc avoir les cheveux courts ou les cheveux longs alternativement. C'est les enfants qui décident.
Ça, c'est bien. Et ça sert à quoi, des poupées sans genre ?
Alors, déjà, ça sert à déconstruire les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on peut être une fille sans avoir les cheveux longs, sans être mince et sans forcément avoir une jupe. Et on peut, pareil, être un garçon avec des cheveux longs, etc. Mais c'est surtout que Mattel s'adresse à ce qu'ils appellent aux États-Unis les genders fluides. Alors moi, je ne connaissais pas. Alors le gender fluide, en fait, c'est quelqu'un qui se sent ni fille ni garçon, ou alors alternativement fille ou garçon. Donc aux États-Unis, c'est assez développé. Il y a même des pictogrammes neutres. C'est-à-dire avec une fille qui a une demi-jupe aux toilettes, par exemple.
Ça devient un peu compliqué quand même, Eve, là.
Bien sûr, c'est un genre neutre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en France, ça existe ? Et je suis allée à la Salpêtrière, à l'hôpital, voir Agnès Condat, qui a une consultation qui s'appelle « Identité sexuée ». Et elle me confirme que depuis quelques années, elle voit des adolescents arriver qui arrivent dans leur consultation, dans sa consultation, qui disent « je ne me sens ni fille ni garçon, écoutez ».
Des adolescents qui viennent nous voir à 13 ans, 14 ans, 15 ans et au-delà et qui nous disent que finalement, ce n'est pas tellement important le genre pour se définir. D'être fille ou garçon, on peut être aussi ni fille ni garçon, on peut être parfois l'un, parfois l'autre.
Alors, voyez cette photo-là, ces poupées-là, on voit bien qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Mmh. Et c'est extrêmement courant dans les cours des collèges aujourd'hui. C'est à peu près 15 à 20% des patients, des enfants qu'elles consultent. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance aujourd'hui. Et le problème, c'est comment on s'adresse à eux quand on se sent neutre, ni fille ni garçon. C'est il ou c'est elle, écoutez.
Il faut juste leur demander comment il ou elle souhaite qu'on s'adresse à eux ou à elle. Et puis même les adolescents vous diraient, c'est pas il ou elle, c'est yel.
Voilà, c'est yel. On dit yel, c'est ni il ni elle, c'est yel. Et si yel, il est gentil, yel est gentil ou gentille ?
On ne sait plus.
Eh bien, c'est gentil. Il faut marquer le temps d'arrêt.
Combien ça coûte, vos poupées ?
Alors, les poupées, elles coûtent aujourd'hui 44 €. Et puis, pour Noël, c'est quand même l'occasion pour les parents d'ouvrir la discussion avec leurs enfants. Parce que ça, c'est très important de leur demander, au fond, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens fille ou est-ce que tu te sens garçon ? Les deux ou aucun des deux ? Et ça, je pense que c'est vraiment la révolution dans notre société chez les jeunes.
Oui, parce qu'à l'adolescence, c'est vraiment la quête de l'identité. Enfin, c'est vraiment à cet âge-là où on se pose beaucoup de questions.
Et voilà, c'est important que les parents puissent ouvrir la discussion.
C'était un commentaire gentil des baroques, mais il reste à écouter la question vache de l'autre chroniqueur. Jérôme Lacroix, vous avez envie de déstabiliser Eve avec une question.
Il est trop gentil.
Vous êtes trop gentil pour
Non, il n'est pas gentil du tout, c'est juste qu'il n'en a pas, tiens.
Il n'a pas préparé, il n'a pas bossé sa question vache, le GG.
Pas du tout, mais non, la chronique était parfaite. Non, j'ai pas de question vache. J'ai décidé d'être générosité aujourd'hui.
Oui, générosité et surtout
mais
pas bosseur.
Peut-être que notre invité Abdel Malik a une question vache.
J'allais demander à Abdel Malik si quel regard il portait sur cette évolution des poupées Barbie. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que c'est un gadget finalement du politiquement correct ?
Oh, ça, c'est le temps qui nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est ce qui a été dit là. Important, c'est être à l'écoute, tout simplement. Et écouter. Et les enfants, écoutez les enfants. Souvent, les enfants, on les écoute pas, en fait. Alors que c'est des personnes à part entière. Donc, voilà, après, chacun doit prendre ses responsabilités en termes d'éducation. J'ai envie de dire les parents, etc. Et la société. Mais je pense que le maître mot, en tout cas, moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est l'écoute, être à l'écoute. Et notamment des enfants, aujourd'hui.
Être à l'écoute, c'est un peu la devise d'Eve Roger, chef du service vrai, société d'Europe 1. Votre chronique a visiblement plu à notre invité suffisamment pour obtenir les 3 points. Nous le verrons tout à l'heure.
Europe 1.
À suivre, s'il y en a un qui restera toujours imperméable à la mode du politiquement correct, c'est notre expert gastronomique, Olivier Pouls. Symbole éternel de l'art de vivre à la française, il est la seule personne que je connaisse à pouvoir s'exclamer en plein milieu de l'après-midi.
J'aurais bien un petit coup de poiré.
L'heure du dîner approche et vous avez complètement oublié de penser à une recette. Il y a pensé pour vous. Délice in extremis arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures de détente pour vos zygomatiques, mais pas pour votre cerveau. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 défilent au micro pour vous proposer l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante. Un seul sera sacré chroniqueur du jour. C'est vous qui décidez, vous. Et notre invité arbitre, c'est Abdelmalik qui nous accompagne aujourd'hui.
Peau noire, cœur blanc, sans bleu, y'a que l'humilité qui m'émeut, moi. Être ou ne pas être, j'ai grandi dans la misère, mais au bout du tunnel, y avait de la lumière.
Abdelmalik, dont je crois savoir, Eva, que vous aviez adoré le dernier album.
Il y a un bémol qui m'a surpris.
Oui, elle est très pointue. Hein. Mais Abdelmalik, votre actualité, c'est un livre, Méchante blessure, votre premier roman chez Plon, et votre mise en scène des Justes de Camus au Théâtre du Châtelet, en ce moment jusqu'au 19 octobre. Eva Rock, vous y étiez pour nous.
Oui, j'y étais dimanche. D'abord, c'est une tragédie musicale, hein, puisque la pièce de Camus, vous l'avez mis en scène et vous l'avez mis en musique aussi, à travers un décor qui est absolument génial. Il faut que vous imaginiez comme une poupée, une maison de poupée géante, disiez, oui. Hein, la coupe d'un immeuble dans lequel on voit évoluer les personnages sur un rez-de-chaussée et 2 étages au-dessus. Il y a des chœurs que vous avez rajoutés, des chansons aussi pour agrémenter. Agrémenter, c'est pas un joli mot. Pour compléter, en fait, le récit Camus. J'avais une première question. En quoi cette histoire qui date de 1905, elle a été jouée en 1949 pour la première fois, mais elle relate un fait de 1905, à savoir les coulisses d'un attentat à la bombe contre un grand-duc en Russie. En quoi elle a quelque chose d'actuel? En quoi elle raconte notre société aujourd'hui, cette pièce de théâtre?
Ben, à plusieurs égards, elle parle de notre société aujourd'hui. D'abord, on a affaire à des jeunes gens qui s'engagent. Et qu'est-ce que signifie l'engagement aujourd'hui au XXIe siècle? Qu'est-ce que signifie la révolution dans une société démocratique? Qu'est-ce qu'être révolté? Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, c'était hyper intéressant de parler de ça et surtout de mettre ça en lien avec les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je suis allé chercher des jeunes à Sciences Po, j'ai casté des jeunes en Seine-Saint-Denis, j'ai monté une troupe avec eux, 5 garçons, 5 filles, avec la troupe d'acteurs expérimentés. Nous tous, on s'est réunis chaque samedi, on se réunissait pour parler du texte et on s'est réunis pendant plusieurs mois et on se réunissait, c'était aussi la période des Gilets jaunes. Donc on questionnait en fait, de dire en quoi ce texte parlait aujourd'hui. Donc on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de... Enfin, en tout cas, j'ai recueilli la parole des jeunes notamment, qui parlaient du climat, qui parlaient, de la problématique migratoire, qui parlaient des violences policières, qui parlaient du fait que lorsqu'on est de différents milieux socio-culturels, on n'est pas traité de la même façon, etc. Donc ça, c'était hyper important parce que les anarchistes, nos jeunes anarchistes de 1905, avaient le même âge que les jeunes avec qui je parlais. Donc c'était intéressant à travers le temps, d'une certaine manière, de mettre en lien cette idée d'engagement.
Alors en parlant de jeunes d'ailleurs, j'ai été très surprise parce qu'à côté de moi, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes au Théâtre du Châtelet. Ouais. J'ai la chance de pouvoir aller régulièrement au théâtre et je reconnais que je n'avais jamais vu une salle aussi jeune et a priori avec des gens qui n'étaient jamais venus au théâtre. Ouais. Est-ce que c'est un de vos objectifs ça? Alors, quand vous montez un projet théâtral?
Complètement. L'idée c'était vraiment ça. L'idée c'est encore une fois de pas... Moi j'ai pris le texte de Camus dans son entièreté, dans sa densité, dans sa complexité. Évidemment, vous l'avez dit, j'ai agrémenté ici et là de différentes choses, mais l'idée, c'était comment introduire à la complexité, comment introduire la jeunesse à la complexité. Et c'est hyper important ça, pour ne pas avoir une vision binaire des choses. Ça, c'était la première chose. Et puis, aussi le fait de se dire investir le Châtelet, investir les grandes institutions culturelles comme ça, c'est de dire qu'il n'y a pas de lieu culturel qui soit fermé pour qui que ce soit, c'est ouvert à tous. Et l'idée, c'était comment mettre ces grands textes en écho avec les cultures urbaines, le hip-hop, etc., mettre tout ça en lien pour que justement les gens puissent se rencontrer. En ce sens-là, l'institution culturelle, le théâtre, devient l'agora par excellence, l'endroit où on débat, l'endroit où le peuple se rencontre et échange. Voilà.
Il met en scène les Justes de Camus au Théâtre du Châtelet à Paris. Son premier roman, Méchante blessure, est disponible. Abdelmalik est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, je sens Ève Roger impatiente.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de sel?
Vous commencez à penser au dîner de ce soir, mais comme Ève, vous n'avez pas du tout le temps de réfléchir à une idée de recette. Vous êtes chanceux, chaque jour vers 6h moins le quart, on vous propose une recette clé en main. Alors, comme on disait sous Daladier, à vos calepins. Délice in extremis, la rubrique des gourmands à tantinet feignant arrive dans quelques instants, juste après une parenthèse musicale. Voici Angèle sur Europe numéro 1. Balance ton quoi.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. Abdelmalik est notre invité pour évoquer son premier roman, Méchante blessure, chez Plon. Abdelmalik, c'est bien joli d'être doué pour la musique, la littérature et le théâtre, mais est-ce que vous êtes fort en cuisine?
Pas vraiment.
Ah, c'est son point faible. On a trouvé le point faible d'Abdelmalik. Scoop Europe 1. Je vous présente maintenant celui qui nous sauve la mise, justement, chaque jour vers 6h moins le quart avec sa rubrique Délice in extremis. Lui aussi mérite d'ailleurs d'être lancé par les plus grands. C'est pourquoi j'ai demandé à Pierre Arditi d'enregistrer son jingle.
Olivier Pouls, retenez bien ce nom, vous ne l'entendrez plus jamais.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour. C'est vrai que je vous confie que moi je suis beaucoup moins fort en musique, en littérature, en théâtre, tout ça. Alors.
Et vous, votre point fort, c'est la bouffe. Chaque jour, vous volez à notre rescousse.
Chacun son truc, hein, mon
cher. C'est vrai. Vous nous donnez une petite recette, une idée rapide, express et pas chère pour épater nos proches ce soir.
Alors, quiche Lorraine aujourd'hui. Pour quiche
Lorraine.
Monde. Quiche Lorraine. Mais je m'apprête tout de suite à vous préciser que
à
dans une
façon.
Quiche Lorraine, dans
il y a
les
un
règles
piège
de
dans
l'art,
la quiche Lorraine.
Et souvent, on y met du fromage. Il n'y a pas de fromage
ah bon
dans une quiche Lorraine.
Ben,
il
voilà.
Ben, y a quoi alors? Ben,
vous savez, c'est, ça fait partie de ces recettes qu'on s'est un peu réappropriées, qu'on a réinventées, comme les fameuses carbonara dont on a déjà souvent parlé, qui ne contiennent officiellement pas de crème fraîche. Eh bien, dans la quiche Lorraine, il n'y a pas de fromage. Quand on y met du fromage, ça devient une quiche vosgienne.
Oh bah c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, c'est pas
moi,
mal la mienne,
vous mettrez du fromage. Alors racontez-nous.
Eh bien, en attendant, pour Eva, on va faire une vraie
Lorraine.
Quiche.
La vraie quiche Lorraine.
Alors, c'est trois ingrédients en plus d'une pâte brisée. Trois ingrédients de base. Des lardons fumés, des œufs et de la crème. Autant vous dire qu'en période de régime, c'est le truc qu'il faut absolument pas manger. Mais en dehors de ça, c'est vraiment très très bon. Alors, c'est hyper simple à faire. Pâte brisée qu'on a mise tout simplement dans un plat. On l'a piquée à la fourchette pour permettre une bonne cuisson homogène par en dessous des aliments. Et puis, on fait ce qu'on appelle une migaine, c'est-à-dire qu'on va mélanger. On va d'abord faire revenir nos lardons pour bien débarrasser du gras. On va les égoutter aussi, sinon on sait déjà que c'est calorique, mais là, on va battre tous les records. Et ensuite, on va mélanger les œufs. Alors moi, je prends 3 œufs plus 2 jaunes pour avoir encore plus de gourmandise.
3 œufs plus 2 jaunes.
3 œufs plus 2 jaunes. Je rajoute 40 centilitres de crème liquide. Et ensuite, je mélange avec mes lardons du sel, du poivre. Et on met cet appareil tout simplement dans notre pâte, dans un four à 180 degrés. C'est un peu long la cuisson. Ève, prenez bien note, entre 45 et 50 minutes.
Parfait. Vous mettez pas
et vous
de
allez
muscade.
Voir, on peut rajouter une petite touche de muscade. Et si vous avez envie, mon cher Mathieu, pour vous, je le ferai,
oui.
Un petit peu de fromage dans l'appareil, ce qui va permettre de gratiner davantage.
Et comme
davantage.
Ça, on pourra inviter Eva, elle sera contente.
Voilà, ça sentira bien le fromage dans la maison.
Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque
c'est
samedi
génial.
Dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Il met en scène Les Justes au Théâtre du Châtelet jusqu'au 19 octobre. Son premier roman, Méchante blessure, est disponible chez Plon. Le polytalentueux Abdelmalik passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
L'équipée sauvage touche à sa fin. La France a le droit de savoir et la France va savoir. Qui est le meilleur journaliste d'Europe 1? Jérôme Lacroix, Ève Roger, Mathieu Charrier ou
Jean-Philippe Ballas?
Dans une poignée de secondes, le verdict. Olivier, vous restez avec nous?
Bah, sauf s'il y a de la purée.
Oh ben, il y en aura. Faites marcher une mousseline pour Pouls.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Abdelmalik, notre invité, me le confie hors antenne avec des trémolos dans la voix. Il n'avait pas vécu une émotion aussi intense depuis sa première victoire de la musique en 2007. Dans quelques secondes maintenant, nous allons savoir qui a été élu chroniqueur Europe 1 du jour. Une fois de plus, le choix était très difficile, pour ne pas dire cornélien. Les plus beaux esprits du journalisme français sont réunis autour de cette table.
Jean-Philippe Ballas.
À qui la prestigieuse couronne reviendra-t-elle? Qui le mérite le plus? Eva Rock, dévoilons d'abord le vote de nos auditeurs.
C'est la première fois que ça arrive.
C'est-à-dire une égalité?
23%, 24%, 26%, 27% pour chacun d'entre eux.
C'est dans un mouchoir de poche.
On est d'accord. Et c'est Ève Roger qui remporte 27% des voix.
Tout ça
et
pour
donc
que ce soit encore Ève Roger qui l'emporte.
Oui, oui.
Ève Roger remporte les deux points du public. Pour ma part, mon point, parce que j'ai un petit point, ne l'oublions pas, il va à Jérôme Lacroix pour son sujet étonnant, qui avait l'air vraiment pourri sur le papier, il faut le dire, sur le sens dans lequel on court. Et on a appris que c'était une raison biologique pour laquelle nous courions tous dans le même sens. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Abdelmalik. Je sais que toute votre vie s'est construite autour des valeurs de tolérance, de générosité. Mais pour une fois, juste une fois, je vous demande d'être une raclure et d'éliminer sèchement trois journalistes qui pourront aller pointer au Pôle emploi spectacle dès la fin de cette émission. Votre voix compte triple. Réfléchissez bien avant de nous dire, selon vous, qui mérite d'être élu chroniqueur du jour.
Et je peux parler en même temps que je réfléchis?
Ah oui, vous pouvez tout à fait élaborer votre
ouais,
pensée.
Parce que franchement, la compétition, tout ça, moi, ça me gêne. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a sa pierre à apporter et comme ça, on est éliminé. Bon, bah, il faut
s'y résoudre.
Je vais prendre Jérôme Lacroix.
C'est Jérôme Lacroix qui est le grand gagnant du jour. Merci. Jérôme, vous faites un bon classement, mon DG. C'est magnifique. Venez que je vous couronne. Vous n'allez pas y couper. C'était la 32e édition de l'Équipée Sauvage. On remercie chaleureusement notre invité, l'étonnant Abdelmalik, dont vous pouvez applaudir la mise en scène des Justes au Théâtre du Châtelet et dont vous pouvez lire le premier roman Méchante Blessure paru chez Plomb. Merci Abdelmalik d'avoir joué le jeu durant ces
Merci
deux heures.
Merci de m'avoir reçu.
Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roque, Ève Roger, Mathieu Charrier, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix. Merci en régie à Claire Dutron, Sébastien Bordenave, Philippe Amardaï, Romain Causeur et Oriane Alévi. L'Équipée Sauvage, j'oublie même le nom de ma propre émission. Il est temps que j'aille me coucher et faire une petite sieste. L'Équipée Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, place à l'info sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir.